Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Maxime Chatham délaisse le style polar noir auquel il nous avait habitué en publiant Le Coma des Mortels. C'est un roman audacieux que nous présente Bernard Lehu dans un instant et que nous vous offrirons dédicacé, mais oui, au 32-10. À la télé ce soir, France 3 propose Il veille sur nos assiettes, un documentaire consacré aux garants de la nourriture de qualité. Ce sera le choix d'Isabelle Morelli-Bosque. Charlotte Arrigoni a préparé pour nous les express du jour. Et puis, Cousin comme cochon, c'est la nouvelle pièce de la troupe à Palmade. Non, ce n'est pas une faute de français, qui reprend tous les codes du vaudeville pour mieux les détourner, les parodier en comédie musicale. Un spectacle hilarant, nous dira Monique Younes.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Depuis près de 15 ans, Maxime Chatham excelle dans deux genres, le thriller et le fantastique, mais avec son dernier roman, Le Coma des Mortels, alors là, il va surprendre.
Oui, c'est un livre inclassable, audacieux, un cocktail étonnant de polar, de comédie cynique, de romans érotiques et de traités philosophiques. Maxime Chatham déroutera peut-être certains de ses lecteurs, il bluffera les autres par son culot. Quoi qu'il en soit, moi je trouve qu'il est toujours bon de voir un auteur à succès ne pas s'endormir sur ses lauriers, oser se remettre en question, prendre des risques et innover.
Alors, qu'y a-t-il de si audacieux dans ce Coma des Mortels ?
Eh bien, la forme déjà. Chatham construit son livre à l'envers. Il commence par la fin, le chapitre 39, et ainsi de suite, jusqu'au premier. Un homme, Pierre, contemple le crépuscule sur une plage paradisiaque. Un homme qui a échappé à la malédiction qui le poursuivait. C'est Pierre qui vous parle, qui va tout vous raconter. Un homme qui, un jour, a voulu en devenir un autre.
Il plaque sa femme, il plaque sa famille, il plaque son boulot, il refait toute sa vie, y compris jusqu'à changer d'identité. Et finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a tous eu en tête un moment dans notre vie ? Est-ce qu'on n'a pas tous eu envie un moment de se dire, si je refaisais ma vie demain, comment est-ce qu'elle serait ? De quoi elle serait faite ? Lui, il se pose pas la question, il le fait. Il ose. Et le problème, c'est que très vite, il se fait des nouvelles connaissances, des nouvelles conquêtes amoureuses, une nouvelle famille, quelque part. Et peu à peu, tous les gens auxquels il s'attache le plus vont disparaître, mourir pour la plupart. La question est de savoir, est-il responsable directement ? Est-il le coupable de tout ça ? Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus sournois derrière toutes ces disparitions ? Est-ce que notre part de culpabilité dans ce cas-là ne serait pas plus forte que nous-mêmes ? Est-ce que le destin, la fatalité, ne nous empêcherait pas finalement de nous reconstruire totalement si on en avait envie ?
Alors je résume, de la culpabilité, des morts, un narrateur, Pierre, qui fait figure de suspect.
Parfait.
Ça ressemble quand même furieusement à un thriller. Qu'est-ce qui rend le nouveau livre de Maxime Chatham si différent de ses précédents ?
Eh bien, un ton décalé, voire déjanté, flirtant avec un comique absurde. Un exemple parmi d'autres, Pierre, qui a rompu avec son passé, se fait embaucher aux eaux de Vincennes comme ramasseur des déjections animales. Et alors, son pire cauchemar, vous savez ce que c'est ? Les pandas. Vous savez, ces petits pandas tout mignons, mais qui en réalité ont une activité intestinale absolument incessante.
Et ce pauvre personnage de Pierre est obligé de passer ses journées à s'en occuper, sauf que Pierre n'étant pas quelqu'un qui fait les choses comme tout le monde, quand il est confronté à un problème, il cherche toujours à trouver une solution, peu importe l'éthique qu'il y aura derrière.
De manière radicale.
Voilà, et donc il va donner un gros paquet de médicaments, d'imodium entre autres, aux animaux qui l'entourent. Il va te filer du Xanax à certains personnages.
Au babouin qu'il trouve un peu trop agité.
Voilà, et c'est le concept même du personnage, c'est-à-dire qu'il décide de refaire sa vie, de ne plus s'embarrasser du politiquement correct et de ce que la société attend de lui qu'il fasse. Vous savez, dans ces situations où des fois on se dit « j'aurais tellement rêvé, osé faire ça ». Alors parfois c'est l'inverse, on se dit là il va trop loin et il devient détestable. Mais il y a des moments où je trouve qu'il est assez héroïque dans ses tentatives d'être lui-même jusqu'au bout.
Voilà, bref, on rit souvent dans Le Coma des Mortels, même si c'est grinçant. Ça baise aussi, frénétiquement.
Ah oui.
Pardon de le dire comme ça, il faut bien appeler un chat un chat. Il n'y a jamais eu autant de scènes sexuelles et de mots crus dans un roman de Maxime Chatham.
Un jour, ma femme, dans un de mes romans policiers, il y avait une scène d'amour et qui faisait un paragraphe. Elle avait reposé le manuscrit que je lui faisais lire le soir. Elle m'avait dit, mais tu peux pas faire ça en un paragraphe, on l'attend pendant 300 pages et d'un coup, ça vient en un paragraphe. Quelle frustration. Ah non, tu vas retourner à ton bureau et tu vas me faire une bonne grosse page, voire même deux, trois bonnes pages sur le sujet. Et j'avais trouvé ça drôle et je m'étais dit, pourquoi pas après tout, pourquoi pas un peu d'érotisme et de sexe dans un roman policier.
Mais Madame Chatham a toujours une influence comme ça, aussi considérable sur votre écriture.
Elle fait beaucoup de remarques sur mes manuscrits et je tiens compte d'une bonne partie d'entre elles quand il s'agit des personnages, parce qu'elle a une vraie bonne vision de ce qu'est la fibre humaine.
Mais ce qui veut dire qu'elle est devenue votre première lectrice ?
Oui, aujourd'hui, oui. Pour tout ce qui est roman policier en général, oui, je lui fais lire en premier. Ouais.
Alors, disons tout. Madame Chatham, c'est Faustine Bollard, la présentatrice d'M6, qui assurera mercredi en co-animation la finale de, voilà, du concours du meilleur pâtissier célébrité.
Quel couple
des pâtisseries, non pas des gâteries.
Alors, et pour conclure, avec le coma, qu'est-ce que je dis ? Rien, avec le coma des mortels, à la forme et au ton singulier, Maxime Chatham n'en continue pas moins en réalité d'explorer ses thèmes favoris, la part d'animalité et le mal tapis dans l'homme.
J'ai le sentiment que décortiquer ce qu'il y a de plus sombre dans l'humanité m'amène à mieux comprendre l'homme. Et si j'ai écrit des romans policiers il y a des années de ça, et parfois des romans très noirs, c'était pour avoir moins peur de ce qu'est l'homme. Décortiquer ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ignore, ce qui nous effraie, c'est le meilleur moyen de se rassurer. Stephen King disait « L'écriture m'a permis d'économiser des milliers de dollars en psychanalyse ». Je pense qu'il n'a pas totalement tort. On écrit rarement des romans si on n'a pas quelque chose, quelques failles en soi à comprendre, à explorer. Et la littérature est le meilleur biais, je pense, pour le faire en y prenant un vrai plaisir.
Eh bien, oser l'exploration inattendue et audacieuse du mal et le jeu capricieux de la vérité que vous propose Maxime Chatham dans Le coma des mortels. L'entretien incomplet de Maxime Chatham est à retrouver sur RTL.fr.
Dites-moi, bande de petits coquins, petites coquines, oui. On vous offre Le coma des mortels, dédicacé et publié chez Albin Michel. Si vous répondez à la question que vous pose immédiatement Bernard Lehoucq.
Alors, quel est le prénom du personnage principal donc, de ce roman ? Pierre ou Guillaume ?
Guillaume ou Pierre ? Pierre ou Guillaume ? Réponse au 32-10. Dans quelques instants, nous ferons un point sur nos audiences du week-end à la télévision et nous retrouverons notamment Danny Boone avec Charlotte.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Vous avez nos audiences télévisées ?
Oui !
Je vous écoute, c'est avec Médiamétrie.
Eh bien, écoutez, vendredi, victoire de France 2 grâce à Candice Renoir qui finit en beauté sa quatrième saison avec 5 millions de fidèles de moyenne pour les deux derniers épisodes. Madame Foresti ayant la consolation de séduire davantage de femmes et de jeunes sur TF1. Samedi, ça s'inverse. TF1 l'emporte avec un match des Bleus, lui aussi gagnant sur la 1, 6 300 000 téléspectateurs, la 2 et la 3 étant ensuite à égalité. La 3 avec le Polar, la 2 avec Patrick Sébastien, 3 300 000 téléspectateurs. Quant à hier, logique, c'est World War II. C'est Z. Avec 6 millions. Il faut que j'ajuste mes lunettes, moi. 6 100 000 téléspectateurs. Pourtant, j'étais devant. Oui. Devant la 6, capitale, 3 millions de téléspectateurs.
Je vous remercie infiniment. Et on se retrouve dans quelques instants, si vous le voulez bien. Comme on dit, Kionès aura fini de désorganiser mes journaux. Quand on les ouvre, on les referme.
Écoutez, mais enfin, ils sont fermés.
Non. Ils ne sont pas remis comme je le souhaitais.
Les Express LVT. Ça vous
dérange, non ?
Écoutez, c'est pas possible, mais c'est pas tout permis, celle-là. Alors, bonjour, Charlotte.
Bonjour, Yves. Bonjour à tous.
Voilà. Bonjour Charlotte. Heureusement que je suis là.
Oui, oui. Ah oui, et puis alors c'est comme toujours très, très dans le rythme. Un rôle de taille pour Danny Boone.
Oui, c'est une information RTL. L'acteur qui vient de terminer le tournage de Red Dingue va prêter sa voix au géant dans la version française du film Le bon gros géant de Steven Spielberg, adaptation du roman jeunesse de Roald Dahl, sortie prévue le 20 juillet prochain.
Calogero prépare son 7e album studio.
Oui, presque 2 ans après la sortie des Feux d'artifice vendus à plus de 700 000 exemplaires, le chanteur s'est remis au travail. Il va collaborer à nouveau avec sa compagne, la parolière Marie Bastide. Il en dit plus ce matin sur RTL au micro de Steven Bellery.
Je suis à fond dans mon prochain album. Comme d'habitude, quand je suis en création, je suis très heureux. Quand je commence à m'isoler, je fais un métier, parce que ça reste quand même un métier, je fais un métier que j'aime à la folie. Je travaille avec des auteurs avec qui j'ai déjà travaillé, comme Marie, comme Paul École, comme Alex Baupin aussi. Et puis des nouvelles collaborations aussi. J'essaye de travailler avec Florent Marché, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on va réussir à faire quelque chose, mais en tout cas, on aime bien parler musique tous les deux. Oh, de toute façon, chaque album est différent. Il faut jamais que ça se ressemble. Mais après, j'ai mon style. D'avoir du style, que ce soit en couture, en designer, en peinture ou en chanson, avoir du style, je pense que c'est le plus important. Et je crois que j'ai du style, j'ai mon style. Voilà.
Calogero au micro RTL de Steven Bellery.
Venons-en maintenant, chère Charlotte, aux confidences de Renaud sur sa tournée qui débute le 1er octobre prochain.
Plusieurs milliers de fans se sont déplacés au Gérardmer Motors Day dans les Vosges le week-end dernier pour voir le chanteur de 64 ans. Renaud, qui à cette occasion a annoncé qu'il chanterait une trentaine de chansons lors de ses concerts, plus un quart d'heure de medley. En tout, le spectacle durera plus de 3 heures. Et pour s'y préparer, il a aussi annoncé s'être mis au sport, aux haltères, au vélo d'appartement. Il fait pas mal d'abdos, dit-il. Pour la voix, Renaud a confié qu'un guitariste venait chez lui chaque après-midi. Un prof de chant, une chanteuse d'opéra sont aussi là pour le conseiller.
On pourra peut-être bientôt découvrir de nouveaux titres de David Bowie.
Oui, le collaborateur historique du chanteur anglais Tony Visconti a fait une annonce importante au quotidien britannique Evening Standard. Il affirme être en négociation auprès des ayants droit du musicien disparu en janvier dernier pour publier de nouveaux morceaux, actuellement sous scellés. Bowie lui avait notamment affirmé avoir enregistré 5 titres pour un nouvel album.
Alors que les obsèques de Mohamed Ali sont programmées vendredi à Louisville, les hommages se succèdent sur Twitter.
Et un des derniers en date, celui de Céline Dion. La chanteuse a publié hier une photo sur le réseau social. On la découvre, elle et son mari, avec des gants de boxe en compagnie du légendaire boxeur. Avec ce cliché, Céline Dion a ajouté un message. « C'était un être exceptionnel, dit-elle, et une source d'inspiration. Nous étions amis, un cadeau que je chérirai toujours. »
Merci beaucoup Charlotte, c'était donc les Express de Laissez-vous tenter. Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Vous avez vu ce week-end la pièce « Cousin comme cochon »
oui.
qui se joue au Splendide à Paris. J'aime bien penser le mot cochon. Elle est écrite par Nicolas Lombreras, et jouée par 8 comédiens chanteurs de la troupe à Palmade. Sur l'affiche de la pièce, il est écrit que « Cousin comme cochon » est une comédie vaudevillo-boulevardo-musicale. Racontez-nous.
Bon, on se croirait en effet dans une farce du siècle avant-dernier, le 19e du nom. La scène se passe en province, comme on disait jadis, à Nogent-le-Rotrou, dans la vaste demeure de M. Félicien de Tartas.
Oui.
Qui vient d'acheter les 32 hectares qui jouxte sa propriété pour en faire une plantation viticole. Alors, Monsieur de Tartas veut produire le premier vin made in Nogent-le-Rotrou. Monsieur de Tartas, donc, aime le vin et le cigare, qu'il ne fume pas, mais qu'il aime voir en permanence au bord des lèvres.
Oui, oh, bah, je vois le genre.
Ben oui, alors tout est à l'avenant. Donc, Monsieur Tartas est avant tout un passionné de chasse. Ça l'apaise, la chasse. Tous les mercredis à 14h, le voilà en tenue, fusil sur l'épaule et chapeau à plumes sur son crâne dégarni, prêt pour le carnage. Et en parfait chasseur cocu, il n'oublie pas d'embrasser sa femme Lucienne avant de partir.
Bonne partie de chasse, mon cher ami.
Je penserai à vous en tirant.
Moi aussi. Dans 30 minutes, adé Oméla, dans 31 minutes, il m'aura arraché mes vêtements et dans 32 minutes, je grimpe au rideau. Pas une seconde à perdre, je vais enfiler ma plus belle tenue de salope pour l'occasion.
Voilà, Lucien aime les hommes grands, sveltes et beaux, alors que Monsieur de Tartas est petit, rond et barbu. Elle a donc comme amant Adéome l'argent, qui, comme son nom l'indique, n'a pas un rond.
Ces bruits qui font pendant des heures, ça me délègue.
Alors, Léontine, que vous venez d'entendre, est la soubrette de Madame. Oui. Elle est chargée de monter la garde pour prévenir Madame si d'aventure Monsieur rentrait plus tôt que prévu.
Un imprévu prévisible.
Ben oui, on n'est pas là pour vous surprendre, on est là pour vous faire rire. Il faut le savoir. Léontine tient le rôle de la soubrette gaffeuse et c'est toujours quand elle doit faire bien attention à ne pas gaffer qu'elle déclenche les pires catastrophes. Et voilà qu'elle tombe amoureuse du nouveau jardinier, Bertrand, un sourd de naissance qui a des difficultés d'élocution. Alors, Léontine trouve ça charmant, elle croit qu'il parle italien. Dans son émotion, elle oublie évidemment de prévenir Madame que Monsieur de Tartas rentre triomphant de la chasse avant l'heure, un sanglier sous le bras.
Le sanglier à la montagne, accompagné de flageolets.
Monsieur, je laisserai tourner pendant des heures. Alors, on assiste donc à des parodies de chansons et puis l'éternelle problématique, le mari, la femme, l'amant.
Oui, avec la soubrette bébête et le préfet homosexuel. Alors, il y a Monsieur Colette, le préfet, qui a lui aussi une passion pour la chasse, mais d'un autre genre de gibier.
Lorsque j'étais assistant parlementaire à la capitale, j'allais souvent au bois chercher les glands dans la forêt. Mais sa tête dans ta cheminée et sur la mousse s'abandonner.
S'abandonner
et recueillir ta dignité. braconner tes idéaux comme un oiseau tout déplumé. Et j'écrirai ton nom sur les fougères, sur les lapins et sur les troncs.
Alors à jouer cette pochade, on sent que les artistes s'amusent énormément. Christophe Canard et Emmanuel Bougerolle n'arrivent pas à contenir leur fou rire, tout comme Constance Carlet et Lionel Erdogan. Leur plaisir fait plaisir à voir et cela rajoute à la bonne humeur du public qui n'est pas venu voir du Obaldia et qui ovationne tous les soirs ses cousins comme cochons joués vraiment par d'excellents comédiens. Comédie écrite par Nicolas Lombreras et qui vous attend au Splendide à Paris tout l'été.
À caractère animalier, hein, puisque nous avons Christophe Canard
et le
sanglier.
Et le sanglier, ça fait beaucoup de monde quand même. Ça fait un poisson, un canard.
Mais il y a aussi une perruche, il y a un lapin, il y a plein de choses. Il y a tout ce qu'il faut.
Très bien. C'était donc Monique Younes qui nous a emmenés au spectacle et on a passé un excellent moment. Dans un instant, la télévision, elle est signée comme chaque jour, Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
À 9h21, nous abordons le chapitre télévisé et on salue l'arrivée d'un petit nouveau à 17h sur TF1.
Oui, Arthur, qui après 25 ans de carrière, s'offre à partir de Julien Direct quotidien de 2h avec une bande que les auditeurs de RTL connaissent au moins en partie, Christophe Beaugrand, Christine Bravo, Titoff, Tanguy Pastoureau, auquel j'ajoute Carole Rousseau. TF1 pense que les 5 à 7, c'est toujours aussi excitant et 5 à 7, c'est donc le titre.
Alors on signale aussi une fin, celle du Bureau des légendes sur Canal+.
Oui, c'est un succès d'audience, plus de 2 300 000 téléchargements et c'est prometteur pour la troisième saison qui aura toujours la même équipe, Mathieu Kassovitz en tête et ça, c'est pas une légende, donc ça sera en 2017.
En revanche, votre coup de cœur est pour tous ceux qui veillent sur nos assiettes ce soir sur France 3.
C'est d'ailleurs le titre, ils veillent sur nos assiettes. Ils, ce sont par exemple les vétérinaires de Roissy qui vérifient les denrées alimentaires venues du monde entier. 18 000 lots inspectés en 2015, 164 refusés. Ce matin-là, sont acceptés des raies américaines, des thons du Sri Lanka et arrêtez de rire. Est en revanche refusé un lot de Chine,
ah oui.
Mais il y a pire avec un paquet qui vient du Cameroun.
Ça sent pas bon.
Ça sent mauvais.
Les conditions de conservation sont pas satisfaisantes, hein, on va dire, là, dans cette espèce de sac, la grande ouverte, ça sent mauvais. C'est pas séché, là, c'est rien du tout, quoi. Donc ça peut être potentiellement dangereux.
On sait pas où ça a été produit, on sait pas dans quelles conditions ça a été produit. Il y a trop de points d'interrogation pour qu'on puisse mettre ça à la consommation.
Ça, c'est des genres d'écrevisses, quelque chose comme ça, séché, je pense. Regarde les belles dents.
Ah oui, ouais, ouais. C'est du poisson, oui. Ah, il y a même un insecte.
Il y a un petit habitant. Ça montre bien que voilà, ça n'a pas vocation à passer chez le consommateur, on va dire. Donc ça va s'arrêter là, tout ça. Hein.
Oui, et là, c'est carrément brûlé. Oui.
C'est abominable.
Ensuite, Monsieur Masson, de la répression des fraudes, dans le Puy-de-Dôme dont il a la charge. Au pied du mur, qu'on voit Monsieur Masson. Il est certes exigeant, mais juste et indulgent quand la santé du consommateur n'est pas en cause, ce qui m'a rassuré un peu. Mm-hmm. Le voici face à un commerçant qui vend ses endives d'Auvergne. Monsieur Masson lui demande ses papiers de producteur.
Je ne suis pas producteur, moi.
Ah, expliquez-moi. Moi, je vois vous direct producteur.
Je vais acheter de la haie chez un producteur.
Alors, voilà. Écoutez, c'est embêtant. Là, tel que je le lis, ce panneau-là...
C'est vente direct producteur.
Mais j'ai le droit de... Non, je vous dirais de l'enlever. Vous n'êtes pas un producteur, monsieur. Vous êtes commerçant. C'est le producteur qui a le droit de s'appeler producteur.
Les ventes directes...
Non. Vente direct producteur, c'est quand le producteur vend directement.
Alors, vente directe de chez le producteur.
Non.
Non plus.
Vous allez créer une confusion dans l'esprit du consommateur qui pensera qu'il achète directement au producteur.
D'accord.
Voilà,
ils sont bons, ils les sont gars, d'accord. N'importe quoi pour vendre n'importe quoi.
Alors, tous s'étonnent de la crédulité des consommateurs, notamment devant les étiquettes, on ne sait pas les lire. Par exemple, ils nous prouvent en quelques minutes que les bâtonnets de crabe n'ont ni crabe ni poisson. Les voici maintenant devant les yaourts aux fraises.
Du lait, du sucre, du sirop de glucose fructose, de la crème, de l'arôme naturel, des ferments lactiques.
Il n'y a pas de fraises.
Voilà. Il y a des fraises dessinées, suggérées. Mais il n'y a pas de fraises.
Alors, qu'est-ce qui nous manque?
Ah ça, j'adore. On a déjà eu le bâtonnet de crabe sans crabe. On a eu le yaourt à la fraise sans fraise. Là, on a le bouillon de bœuf sans bœuf. Donc là, on a une magnifique vache. Il y a écrit bœuf, en très gros. Je cherche le bœuf, arôme, dont arôme bœuf. Un des arômes sera l'arôme du bœuf. En même temps, c'est bien pour les végétariens. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu trompeur. Mais ce n'est pas illégal puisqu'il y a écrit goût bœuf.
Donc il n'y a pas de fraises dans le yaourt aux fraises.
Non, voilà, il n'y a pas de bœuf dans le bouillon de bœuf. Et vous verrez une étiquette qui les fait réagir. Moi, j'ai vu ça aussi, cette étiquette dans le commerce. Et moi aussi, ça m'a fait rire. Œufs ramassés le matin. Ben oui, même au 19e siècle, la fermière, elle ramassait ses œufs tous les matins.
Le bon matin, oui.
Voilà. Et alors, ils disent, c'est, comme c'est en gros sur la boîte, ça fait rire tout le monde. Moi, j'ai vu aussi myrtille très sauvage sur un yaourt. Alors, très sauvage, je suppose qu'elle mord le consommateur. Mais alors, et la suite ce soir sur France 3, vous découvrirez qu'on peut mieux consommer avec une meilleure connaissance des choses, notamment dans le domaine des poissons.
Les gens ont l'habitude de consommer souvent les deux ou trois mêmes espèces, le cabillaud, le saumon. Ce matin, on voit qu'il y a une grande diversité. Il y a du maquereau, il y a du merlan, il y a du taco, de la vive, des espèces que les gens ne pensent pas aller acheter. Et pourtant, c'est des espèces délicieuses. Ah, mais il y a du taco, c'est parfait ça.
Ouais.
Voilà, le taco, c'est un produit très très proche du cabillaud. C'est la même espèce, de toute façon, on les reconnaît, ils ont un petit barbillon comme ça. Et c'est un poisson qui coûte presque 10 fois moins cher.
Facilement.
Facilement, voilà. La chair est vraiment très similaire au cabillaud. C'est juste que c'est pas connu.
Oui, c'est un excellent poisson.
Du taco pour du cabillaud.
Voilà, non, on peut vous le vendre pour du taco, c'est-à-dire nettement moins cher, mais tout aussi bon.
Ah, tout aussi bon.
Le taco, si j'ose dire, malgré son nom, c'est un poisson qui nage très vite.
Voilà. Alors, là, nous l'avons perdu, n'est-ce pas?
On s'en sert pour faire des aliments pour animaux, et c'est très très injuste pour ce.
Elle est au taquet ce matin.
Non, mais écoutez, c'est incroyable. Il y a une enfant qui sommeille chez cette femme. Moi, ça me fera toujours rire. Alors, dans un instant, vous saurez si vous savez gagner le dernier livre de Maxime Chatham en nous ayant appelé au 3210. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Maxime Chatham vient de publier Le Coma des Mortels. C'est son dernier roman chez Albin Michel. Je constate sur la quatrième de couverture qu'il s'est un petit peu arrondi, n'est-ce pas? Vous regardez comme ça.
Si vous le dites.
C'est légèrement. Et la question que nous vous posions était, quel est le prénom du personnage principal, Pierre ou Guillaume?
Il s'agit de Pierre, bien sûr.
Voilà, si vous nous avez appelé, vous avez donné le bon prénom, et bien vous gagnez le livre dédicacé par l'auteur. Et je remercie Bernard Lehu et toute l'équipe. Nous retrouvons maintenant Julien Courbet. Bonjour Julien.
Qui n'est pas seul?
Non, Maître Fellonneau.
Non plus. Allez, alors, citez des gens que vous connaissez, comme ça. On va y passer la matinée. Mais parce qu'il y a un invité, pour la première fois, nous avons un invité dans l'émission.
Calvi, mettez-vous au courant de ce qui se passe dans cette maison, voilà. Excusez-moi. Est-ce que vous reconnaissez?
Il est là, lui.
Vous
mais
reconnaissez?
Oh, bah oui.
Dis donc, oh, ça va, hein?
Mais depuis quand?
Est-ce que je me moque de votre expression? Alors, vous êtes en train de me dire que.
Hein, oui,
c'est bien ça, votre expression, monsieur Calvi.
C'est plutôt charmant.
Quand on en arrive à se faire appeler, il est là, lui.
Il est là.
Parce qu'il en a vraiment réussi sa vie.
Mais vous êtes trompé de studio, c'est pas possible.
Mais non, il est là.
Non, je ne suis pas aux grosses têtes. J'ai pas confondu, vous inquiétez pas. Mais je vous annonce, et c'est un scoop, que Julien Courbet ne fait plus l'émission. Qui reprend.
Voilà.
Je peux vous dire qu'on va enfin rigoler.
Allez, on va démarrer.
Allez, faites-nous une belle émission.
Bonjour, ça c'est pas sûr, mais on va en faire une en tout cas.